VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Bamako, 17h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Les relations entre Washington et l'Arabie Saoudite se sont brusquement tendues après le rejet hier par le Congrès américain du veto du président Barack Obama sur une loi autorisant les proches des victimes des attentats du 11 septembre aux États-Unis à poursuivre en justice l'Arabie Saoudite. Plus de détails avec Claire Morin-Gibourg.
C'est un coup de poignard dans le dos. La formule choc utilisée par l'Arabie Saoudite illustre bien la colère des Saoudiens. Riyad est un allié de longue date des États-Unis. Ce vote hostile du Congrès pourrait impacter cette coopération, notamment dans le contre-terrorisme. Salman al-Ansari, président de la SAPRAC, un comité privé pour la promotion des relations saoudo-américaines, prévient même « J'ai peur que cette loi, irréaliste et irréfléchie, ait des implications stratégiques catastrophiques. Comment pouvez-vous poursuivre un pays qui collabore contre ce même terrorisme dont il est accusé sans fondement » s'interroge-t-il. 15 des 19 auteurs des attentats du 11 septembre étaient des ressortissants saoudiens, mais la responsabilité de l'Arabie Saoudite n'a jamais été démontrée. Pour sa part, le président Barack Obama a qualifié d'erreur ce camouflet du Congrès américain.
Actualité américaine toujours, un universitaire et ancien dirigeant syndical rwandais recherché depuis 12 ans pour son implication présumée dans le génocide de 1994 a été extradé mercredi des États-Unis vers le Rwanda. Les détails avec Nathalie Barge.
Léopold Munyakazi, qui nie avoir participé au génocide, était détenu dans l'Alabama après le rejet de sa demande d'asile aux États-Unis, où il vivait depuis 2004. En 1994, il était secrétaire général de la Centrale syndicale des travailleurs du Rwanda. Il avait été détenu au Rwanda pour participation présumée au génocide avant d'être relâché et de gagner les États-Unis où il enseignait le français. Kigali a émis deux mandats d'arrêt à son encontre en 2006 et 2008. Il disait être poursuivi pour ses opinions politiques hostiles au régime actuel. Le parquet conteste sa version et le poursuit pour génocide et crime contre l'humanité. Une dizaine de Rwandais ont déjà été renvoyés à Kigali, principalement en provenance des États-Unis, du Canada et de l'Ouganda.
Au Burundi, Gervais Niangabo, le chef d'un parti d'opposition et l'un des derniers éminents opposants à être resté dans le pays, a été arrêté hier à Makamba, dans le sud, pour atteinte à la sûreté de l'État. Les précisions de Nani Talani.
Président d'un parti et membre du CNARED, la principale coalition d'opposition au Burundi, Gervais Niyongabo a été arrêté selon la police pour participation à des bandes armées et atteinte à la sûreté de l'État. Il est actuellement détenu à Bujumbura par le Service national de renseignement, a précisé le porte-parole de la police, Pierre Nkourikiye. De plus, depuis deux semaines, 8 policiers et 15 militaires ont été arrêtés pour les mêmes motifs, a-t-il ajouté. Le pouvoir burundais accuse le CNARED, la principale plateforme d'opposition, d'être lié à une tentative de coup d'État en mai 2015 et aux violences qui frappent le pays depuis lors. De son côté, l'opposition accuse le pouvoir de cibler des soldats issus de l'ancienne armée dominée par la minorité Tutsi. Plusieurs d'entre eux ont déjà été exécutés depuis le début de la crise en avril 2015. Les violences ont fait plus de 500 morts et poussé près de 300 000 personnes à quitter le pays.
RDC, deux hauts responsables des services congolais de sécurité font l'objet de sanctions financières de la part des États-Unis depuis hier. Plus de détails avec John Lyndon.
Le major général Gabriel Amissi Kumba, commandant des forces armées du pays, ainsi que le général John Numbi, ancien chef de la police nationale, ont été placés sur la liste noire du Trésor américain. Leurs avoirs éventuels aux États-Unis seront gelés et il est interdit à tout ressortissant américain de réaliser des transactions avec ces individus, indique John Smith, directeur en exercice de l'Agence du Trésor. Ces mesures sont annoncées alors que la RDC vient de connaître une nouvelle flambée de violence. Le général Amissi Kumba est accusé d'avoir commandé des unités des FARDC dans la répression de manifestations politiques. Washington cite aussi l'usage de forces excessives et d'armes létales pendant des manifestations, particulièrement en janvier 2015. Pour sa part, le général John Numbi est accusé d'avoir usé d'intimidation violente en mars dernier lors d'élections pour s'assurer la victoire des candidats affiliés à la coalition du président Kabila.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Mali, 4 députés du Rassemblement pour le Mali, RPM au pouvoir, ont quitté le parti ce jeudi, dénonçant la mauvaise gouvernance. Les démissionnaires ont rejoint l'Alliance démocratique pour la paix, ADP, formation politique ayant elle-même abandonné la majorité en août pour s'allier avec l'opposition. Le RPM ne dispose plus que de 75 sièges sur 147 à l'Assemblée nationale. Et puis en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara présentera le projet de nouvelle constitution au cours d'une déclaration solennelle au Parlement le 5 octobre. Nous retrouvons Claire Morin-Gibourg.
C'est le porte-parole du gouvernement, Bruno Conné, qui s'est chargé de faire l'annonce. Le 5 octobre prochain, le président Ouattara présentera lui-même la nouvelle constitution. Bruno Conné s'est refusé à donner des détails, mais a confirmé les grandes lignes déjà connues. La création d'un poste de vice-président et d'un Sénat, la constitutionnalisation de la Chambre des rois et chefs traditionnels et l'extension des compétences du Conseil économique et social. Évoquant la crise des années 2000, le porte-parole du gouvernement a précisé que cette nouvelle constitution se voulait plus consensuelle, plus fédératrice, pour permettre de, je le cite, « rassembler tous les Ivoiriens ». Fin juin, 23 partis d'opposition, dont le Front populaire ivoirien, ont adopté une déclaration commune refusant le référendum sur cette nouvelle constitution, critiquant une dérive monarchique du pouvoir. La rédaction d'une nouvelle constitution était l'une des promesses de campagne d'Alassane Ouattara, réélu en octobre 2015.
Israël, l'ex-président Shimon Peres, prix Nobel de la paix, sera enterré ce vendredi. Figure emblématique de l'État hébreu, il aura marqué l'histoire de son pays, ce qui lui avait valu une reconnaissance internationale, mais aussi la colère de beaucoup de Palestiniens. Saloua Jafari.
Shimon Taram Rabot, Levitzur Kochenu.
Le nom de Shimon Peres sera toujours gravé dans les annales de la lutte de notre peuple pour l'indépendance, comme l'un des grands chefs de l'État d'Israël, comme l'un des pères fondateurs qui ont créé l'État d'Israël. Que sa mémoire soit toujours au cœur de notre nation.
C'était quelques mots prononcés par le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahou. Shimon Peres était l'un des derniers hommes politiques issus de la génération des fondateurs d'Israël.
Nous n'avons pas beaucoup de rivières, nous n'avons pas beaucoup d'eau. Et c'est extrêmement essentiel pour le développement des pays. Ce n'est pas la guerre qui nous inquiète, mais l'effort évité de guerre.
Oui, Shimon Peres est le dernier des trois lauréats du prix Nobel de la paix décerné pour les accords d'Oslo à s'éteindre. Ces accords, signés en 1993 à Washington, puis en 1995 à Taba en Égypte, visaient un règlement global et durable du conflit entre Israéliens et Palestiniens et avaient suscité un immense espoir à travers le monde. Ces accords sur l'autonomie sont le premier texte ratifié par les deux camps qui s'affrontent depuis 1948, date de la création d'Israël. Les Palestiniens l'appellent Nakba, la catastrophe en arabe. Beaucoup de Palestiniens ne l'ont pas oublié. Saber Farraj, un résident de Ramallah.
Le monde regarde d'un œil et en gardant l'autre fermé. Comment un homme de paix peut-il tuer des enfants? Comment peut-il obtenir la puissance nucléaire? Parce que c'était lui qui a obtenu les armes nucléaires pour Israël.
Le Hamas est du même avis. Du côté de l'autorité palestinienne, on a choisi de garder le silence.
Oui, je pense qu'il faut trouver une solution démocratique, libérale et responsable pour les deux peuples, pour le peuple arabe et pour le peuple israélien, à notre État autonome.
Pour beaucoup, le nom de Shimon Peres restera synonyme de paix. Plusieurs chefs d'État ainsi que le pape ont présenté leurs condoléances au peuple israélien. Le 8 juin 2014, un mois avant la fin de son mandat, Shimon Peres s'est rendu au Vatican avec le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, le pape François. Ils ont planté ensemble un olivier, symbole de la paix.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.